Bonjour, ici Marc, bienvenue au 53e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures perspectives que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, on continue avec la traduction du livre de Larkin Rose, La superstition la plus dangereuse. Crime. L'envers du concept de loi est le concept de crime, l'acte de désobéir à la loi. L'expression « commettre un crime » a évidemment une connotation négative. La notion selon laquelle enfreindre la loi est moralement répréhensible implique que l'ordre auquel on désobéit est intrinsèquement légitime, sur la seule base de la personne qui a donné l'ordre. Si un gang de rue dit à un propriétaire de magasin « vous nous donnez la moitié de vos bénéfices ou nous vous faisons du mal », personne ne considérera le propriétaire du magasin comme un criminel s'il résiste à cette extorsion. Mais si la même demande est formulée par ceux qui portent l'étiquette de « gouvernement » et que cette demande est appelée « loi » et « taxe », alors ce même propriétaire de magasin serait considéré par presque tout le monde comme un criminel s'il refusait d'obtempérer. Les termes « crime » et « criminel » ne font même pas allusion à la « loi » à laquelle on désobéit. Il y a 100 ans, c'était un crime d'enseigner à lire à un esclave. En 1945, en Allemagne, c'était un crime de cacher des juifs au SS. En Pennsylvanie, c'est un crime de dormir dans ou sur un réfrigérateur à l'extérieur. Littéralement, commettre un crime signifie désobéir aux ordres des politiciens, et un criminel est toute personne qui agit de la sorte. Là encore, ces termes ont une connotation négative évidente. La plupart des gens ne veulent pas être traités de criminels et considèrent comme une insulte le fait de traiter quelqu'un d'autre de criminel. Encore une fois, cela implique que l'autorité qui émet et applique les lois a le droit de le faire. Les législateurs. Le concept de législateur comporte un étrange paradoxe. Il est perçu comme ayant le droit de donner des ordres, d'imposer des taxes, de réglementer le comportement et de contrôler les gens de manière coercitive, mais seulement s'il le fait par le biais du processus législatif. Les membres des assemblées législatives du gouvernement sont considérés comme ayant le droit de gouverner, mais seulement s'ils exercent leur autorité supposée par le biais de certains rituels politiques acceptés. Lorsqu'ils le font, les législateurs sont imaginés comme ayant le droit de donner des ordres et d'engager des personnes pour les appliquer dans des situations où des individus normaux n'auraient pas ce droit. En d'autres termes, le grand public s'imagine honnêtement que la moralité est différente pour les législateurs et pour tout le monde. Exiger de l'argent sous la menace de la violence est un vol immoral lorsque la plupart des gens le font, mais est considéré comme de l'impôt lorsque les hommes politiques le font. Diriger les gens et contrôler leurs actions par la force est considéré comme du harcèlement, de l'intimidation et de l'agression lorsque la plupart des gens le font, mais c'est considéré comme de la réglementation et de l'application de la loi lorsque les politiciens le font. Ces derniers sont appelés législateurs plutôt que faiseurs de menaces, car leurs ordres, s'ils sont donnés par le biais de certaines procédures législatives, sont considérés comme intrinsèquement légitimes, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme une autorité et que l'obéissance à leurs ordres législatifs est considérée comme un impératif moral. Application de la loi. L'un des exemples les plus courants d'autorité que de nombreuses personnes voient au quotidien est celui des personnes qui portent l'étiquette de police ou de force de l'ordre. Le comportement des forces de l'ordre et la manière dont elles sont considérées et traitées par les autres montrent clairement qu'elles ne sont pas simplement considérées comme des personnes, mais comme des représentants de l'autorité à laquelle des normes morales très différentes sont censées s'appliquer. Supposons par exemple que quelqu'un roule dans la rue sans savoir que l'un de ses feux stop a grillé. Si un citoyen ordinaire obligeait le conducteur à s'arrêter et lui demandait ensuite une forte somme d'argent, le conducteur serait scandalisé car ce serait considéré comme de l'extorsion, du harcèlement, voire une agression et un enlèvement. Mais lorsqu'une personne prétendant agir au nom du gouvernement fait exactement la même chose, en allumant son gyrophare et en poursuivant la personne si elle ne s'arrête pas, et en émettant ensuite une contravention, de telles actions sont considérées par la plupart des gens comme parfaitement légitime. Dans un sens très réel, les personnes qui portent des badges et des uniformes ne sont pas considérées comme de simples personnes par tout le monde. Elles sont considérées comme le bras d'une chose abstraite appelée autorité. Par conséquent, le bien fondé du comportement des officiers de police et la justesse de leurs actions sont mesurés à l'aune d'une norme bien différente de celle qui s'applique au comportement de tout un chacun. Ils sont jugés sur leur capacité à faire respecter la loi plutôt que sur la conformité de leurs actions individuelles avec les normes du bien et du mal qui s'appliquent à tout le monde. Cette différence est exprimée par les responsables de l'application de la loi eux-mêmes, qui défendent souvent leurs actions en disant des choses telles que « je ne fais pas la loi, je ne fais que l'appliquer ». Il est clair qu'ils s'attendent à être jugés uniquement sur la manière dont ils exécutent fidèlement la volonté des législateurs, plutôt que sur leur comportement en tant qu'êtres humains, civilisés et rationnels. Pays et nation. Les concepts de loi et de crime sont des dérivés évidents des concepts de gouvernement et d'autorité, mais de nombreux autres mots de notre langue sont soit modifiés par la croyance en l'autorité, soit existent entièrement en raison de cette croyance. Un pays ou une nation, par exemple, est un concept purement politique. La ligne qui entoure un pays est, par définition, la ligne qui définit la zone sur laquelle une autorité particulière revendique le droit de gouverner, ce qui distingue ces endroits des zones sur lesquelles d'autres autorités revendiquent le droit de gouverner. Les lieux géographiques sont bien sûr réels, mais le terme « pays » ne se réfère pas seulement à un lieu. Il s'agit toujours d'une juridiction politique, autre terme issu de la croyance en l'autorité. Lorsque les gens parlent d'aimer leur pays, ils sont rarement capables de définir ce que cela signifie. Mais en fin de compte, la seule chose que le mot « pays » peut signifier n'est ni le lieu, ni le peuple, ni aucun principe ou concept abstrait, mais simplement le territoire qu'une certaine bande prétend avoir le droit de gouverner. À la lumière de ce fait, le concept d'aimer son pays est une idée très étrange. Il n'exprime guère plus qu'un attachement psychologique aux autres sujets qui sont contrôlés par la même classe dirigeante. Ce qui n'est pas du tout ce que la plupart des gens envisagent lorsqu'ils ressentent de la loyauté nationale et du patriotisme. Les gens peuvent ressentir de l'amour pour une certaine culture, ou un certain lieu et les personnes qui y vivent, ou pour un idéal philosophique, et confondre cela avec l'amour du pays, mais en fin de compte, un pays est simplement la région qu'un gouvernement particulier revendique le droit de gouverner. C'est ce qui définit les frontières, et ce sont ces frontières qui définissent le pays. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi vous voulez que ceux dont on parle ici arrivent aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Les médias sont de plus en plus censurés, mais laisser un commentaire sur iTunes, par exemple, peut aider les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la première partie de « La superstition la plus dangereuse ».